toutes et à tous. Alors c'est vrai que quand Pierre me demandait si je voulais bien partager ce matin, puisque la date était prévue et que le sujet a été arrêté après sur l'Église persécutée, je lui ai dit « Ah, bon, je me sens bien petit sur ce sujet, mais la Bible en parle, et donc c'est de ça dont on va parler ce matin ». Et évidemment, pour le côté témoignage, je ne témoignerai pas de moi-même, mais on regardera une vidéo de quelques minutes, le témoignage de frères et de sœurs qui sont bien plus loin que nous sur ce sujet sera beaucoup plus parlant. Donc, vous l'avez compris, Andrew l'a présenté, on parle du corps de Christ persécuté dont nous faisons partie. De quelle lignée nous faisons partie ? Depuis Abel jusqu'à Christ et ensuite tous les autres aussi qui ont suivi, tous les prophètes déjà qui, annonçant la venue de Christ, ont été déjà persécutés. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, Jésus l'a annoncé. Et ce matin, je voulais introduire de la manière suivante. Nous aimons tous hein, les promesses de Dieu, hein, n'est-ce pas ? Je pense qu'on en a tous plus ou moins en réserve, et ce n'est pas une mauvaise chose, puisque c'est Dieu qui promet. Il y a des promesses qui sont inconditionnelles, comme par exemple quand Jésus il dit « Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il sera avec nous, qu'on marche parfois même dans la désobéissance, mais lui, il sera là. Il y a d'autres promesses qui sont conditionnées à une action de notre part, notamment d'obéissance. Et Paul nous donne cet exemple dans Éphésiens. Honore, il rappelle ce commandement. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi, tu seras heureux et tu auras une longue vie sur terre. Alors, on a des dizaines de promesses comme ça qui nous font du bien, qui nous encouragent, je dirais, tant spirituellement que même dans notre être extérieur, ça fait du bien. Et puis, il y a, je dirais, on en discutait hier encore avec David, on ne peut pas les qualifier de promesses, mais en tout cas des avertissements de Dieu, de Christ notamment, qui sont attachés à une promesse, ou plutôt auxquels sont attachés une promesse, qui nous paraissent un peu moins intéressants. Hein. On a plus tendance à les zapper quand on lit, on se dit, bon, on va penser aux chrétiens qui sont ailleurs, mais pour nous, c'est autre chose. Et c'est très, 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 très récurrent. On voit déjà dans tout l'Ancien Testament, comme dit, le nombre de prophètes qui ont été déjà mis à mort parce qu'ils annonçaient le royaume de Dieu, et tout autant dans le Nouveau Testament et aujourd'hui encore. Je ne vais pas lire tous les versets qui sont dans la Bible à ce sujet, il y en aurait pour des heures, mais quelques-uns. Jésus lui-même dira à ses disciples, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Dans Actes, il est écrit, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Paul dira à Timothée, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, comme dit, on ne va pas le qualifier dans des promesses. Ça ne semble pas dans notre intérêt hein, tellement de marcher avec Christ pour derrière être persécuté, hein, n'est-ce pas ? Mais est-ce que rechercher le royaume, c'est rechercher son propre intérêt. Est-ce que je recherche le royaume de Dieu ou est-ce que je recherche mon intérêt avant tout ? Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne bénit pas et qu'il ne travaille pas dans notre intérêt. Christ l'a fait à la croix. Le sacrifice de Jésus, clairement, était dans notre intérêt et pour sa gloire, bien sûr. Mais ce n'est pas le sujet que je vais développer ce matin, la bonté de Dieu et toutes les promesses. C'est dans ce contexte-là que je le dis. Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, etc., tout ça viendront en plus. Mais il nous invite très clairement à chercher son royaume premièrement. Jésus et les apôtres ne sont pas en train de donner, j'ai écrit un cours de développement personnel pour se dire, allez, j'ai trouvé un bon leader charismatique, lui il nous motive, il est bon, il sera d'une bonne influence pour nous, pour notre carrière d'apôtre et de futur leader, lui on peut le suivre pour ça. Jésus, il a été très clair avec ses propres disciples. Il leur a dit, si vous me suivez, soyez prêts à tout quitter et même à mourir pour moi. Alors, on va le voir hein, dans l'exemple de Pierre et des autres disciples que le jour où ils seront face à la croix, ils vont abandonner Jésus. Bien sûr, ce n'est pas possible par nos propres forces et il y a besoin de l'Esprit de Dieu pour être capable de le suivre de cette manière. Mais il y a cette tension entre notre chair, notre corps plutôt, qui préfère le confort, et l'esprit qui est en nous. Paul dira, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternel. Et là, il y a une promesse, c'est que au travers de ces afflictions, derrière, il y a une récolte plus grande. On va le voir ensuite. Suivre Jésus tous les jours, c'est la vision de l'Église. C'est quelques mots qui ont été choisis pour la communiquer. Et ce n'est pas dans l'intérêt de mon être extérieur, je dirais, de suivre Jésus tous les jours. C'est premièrement, si je le suis, c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Et derrière, ça va produire quelque chose, un poids de gloire éternelle. Alors c'est vrai qu'on va participer à cette gloire, mais on voit que même nos couronnes que l'on pourra recevoir seront déposées au pied de Christ. Elles seront pour lui. Jésus et les apôtres forge notre caractère. Jésus dit, alors on vous persécutera et on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Et là, je tiens à souligner vraiment ce point, ce à cause de moi. Paul et d'autres, presque des fois, se réjouiront, Pierre, Jean, etc., quand ils seront persécutés. Parce qu'ils verront qu'ils ont été dignes de l'Évangile. Et en fait, ils ne voient pas une atteinte à leur propre personne, mais à Christ. Et il y a cette union avec Jésus-Christ. Paul dira à Timothée, « En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. » Alors, on va le voir en trois points, et j'essaierai de ne pas être trop long ce matin, justement, pour qu'on garde un temps aussi pour écouter le témoignage de frères et sœurs, et pour qu'on puisse prendre un temps de prière en Église. Premièrement, le Seigneur veut travailler notre cœur, notre foi, notre caractère. Deuxièmement, on verra, c'est une motivation pour annoncer l'Évangile. Et troisièmement, d'avoir cette vision du corps de Christ, vraiment. Alors on pourrait trouver aussi, je ne dis pas qu'il n'y a que trois points, on pourrait développer aussi d'autres,
d'autres points. Hop. Alors, Christ nous annonce ce qui doit arriver afin de nous préparer. Il va dire à ses disciples, avant de remonter auprès du Père, « Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Cela doit arriver. » Il parle des temps de la fin et, entre autres, des tribulations qui seront là. Il dit « Ça doit arriver. » Pierre fera de même et il dira « Bien-aimé, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Là, il y a cette promesse, c'est que l'on sera dans sa joie, dans son allégresse, quand Christ reviendra et quand nous serons avec lui pour l'éternité. Je relis, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances du Christ. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension du corps de Christ persécuté, mais premièrement, c'est Christ lui-même qui a donné sa vie, qui a été crucifié pour nos péchés, pour notre salut. Et c'est ce témoignage-là qui est poursuivi par les souffrances aussi. Paul en parlera de ces souffrances qu'il a. Il ne parle pas de souffrance pour rajouter quelque chose au sacrifice de Christ dans une notion de salut. Il n'y a rien à ajouter au salut de Christ, mais cette œuvre-là est poursuivie aujourd'hui encore par les souffrances de ceux qui portent ce témoignage et qui ont part aux souffrances de Christ. Paul dira, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que ce soit Christ ou les apôtres, comme dit, ils cherchent là, ils n'écrivent pas juste des paroles comme ça, pieuses et religieuses, mais ils savent ce qui attend l'Église pour les années, les décennies, les siècles, et je ne sais pas jusqu'à quelle vision en termes de timing ils avaient, mais même les millénaires qui ont suivi depuis 2000 ans. Et là, ils cherchent à forger notre foi en nous, parce qu'ils savent que ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ auront part à ces tribulations, seront persécutés. Ils ne minimisent pas, en parlant de légères afflictions du moment. Et je me dis, j'aurais du mal à parler de légères afflictions ce matin si ce n'était pas Paul qui l'avait écrit d'abord. Il a reçu 5 fois 39 coups de fouet ou de bâton, 195 coups par série de 5 comme ça, je ne sais pas si vous imaginez. Une première fois 39 coups, le dos il est lacéré. Il n'y avait pas tous les moyens pour désinfecter, etc. à l'époque. Et puis je ne sais pas, quelques semaines, mois plus tard, une deuxième série de 39 coups par-dessus les cicatrices qu'il y avait déjà. Et encore plus tard, troisième série de 39 coups de fouet ou de bâton sur son dos, comme ça. Et quand on imagine ça, waouh, il parle de légère affliction du moment, il a une vision des choses qui est au-delà de son propre corps, qui est au-delà de son propre intérêt. Il a en vue le royaume de Dieu, clairement. Il a en vue ce que Dieu a appelé et qui doivent être sauvés. Et si Christ a payé le prix ultime, alors il nous dit, nous aussi, franchissons ce pas, n'ayons pas peur de ça. Comparé à l'éternité, ces douleurs présentes ne sont rien par rapport à la gloire qui sera éternelles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Pierre nous dira « Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Je prends beaucoup de versets ce matin et je paraphrase, mais comme dit, je ne vais pas vous parler de mon témoignage ou autre, mais je vous parle de ce que la parole parle, et il y en a encore des dizaines et des dizaines, et on pourrait y passer tout le week-end, rien qu'à les lire les uns après les autres. Aura pour résultat, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça, c'est une belle promesse. Deuxièmement, donc premièrement, forger notre caractère, forger notre foi, annoncer l'Évangile. Donc, ce matin, on parle du corps de Christ persécuté pour nous encourager à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En quoi est-ce encourageant ? Paul dira aux Philippiens, « Je tiens à ce que vous le sachiez, frère, ce qui m'est arrivé, donc il était passé par des séries de coups de fouet, de coups de bâton, d'emprisonnement, de naufrages, et quand il écrit ça, probablement encore qu'il est emprisonné, « Je tiens à ce que vous le sachiez, frère, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres, donc à Rome, hein, et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Je trouve ce verset remarquable et comment Paul, en 2-3 lignes, synthétise des fondamentaux même. Premièrement, il dit bien qu'il sert la cause de l'Évangile. Il ne sert pas sa propre carrière d'apôtre, de prédicateur qui avait des dons incroyable, qui pouvait avoir un aura, il était capable de tenir à Éphèse devant des philosophes, etc., et de leur tenir un discours très sage humainement. Il était capable de les confondre, mais il dit qu'il viendra avec la puissance de l'Évangile, avec la folie de la croix pour les convaincre, et non pas avec ce discours plein de sagesse. Il sert la cause de l'Évangile, il aurait pu se mettre en avant. Deuxièmement, il met vraiment un focus sur l'œuvre et sur les souffrances de Christ, et pas sur les siennes. Quand il parle de ses souffrances, je vous rappelle ce verset qu'on a lu au début, il les assimile, c'est une part qu'il prend aux souffrances de Christ. Ce sont les souffrances de Christ, les meurtrissures de Jésus, c'est par ces meurtrissures qu'il a porté nos maladies, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Il ne focalise pas pour dire « Oh, regardez combien je souffre pour vous ». Quand il en parle, c'est pour ramener ce témoignage à Christ et pour dire, pour encourager les frères et sœurs. Il dit « C'est parce que je sers le Christ que je suis en prison ». Et il rappelle juste aussi que ce n'est pas un prétexte d'aller en prison parce qu'on a commis des malversations ou autre. Fais bien la différence. On ne va pas se donner des prétextes. Et troisièmement, il encourage tout le corps de Christ. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et ça, ça me parle, parce que même si je suis dans un pays où physiquement il n'y a pas d'atteinte, en tout cas pas généralisée à l'annonce de l'Évangile, j'ai bien des freins dans l'expression de ma foi au quotidien. Est-ce que je vais parler à mon collègue sur mon lieu de travail ou à mon patron? J'avais une négociation, une augmentation à négocier, là, c'est pas le moment, je vais attendre. Seigneur, je te prie d'abord de toucher son cœur pour cette augmentation et puis après, je voudrais bien lui parler de toi. Des moqueries, et ça commence tout petit, dès l'école maternelle, les enfants, quand ils réalisent que tous, en fait, ils ne sont pas chrétiens, ils réalisent que la foi de leurs parents et puis la leur, est, effectivement, tout le monde ne la partage pas. Et on a un certain nombre de freins comme ça, de tensions qui sont en opposition à notre foi. Et de savoir qu'il y a des frères qui sont aujourd'hui encore prêts à payer ce prix très élevé, ça minimise un petit peu les moqueries ou les injustices qu'on peut être à même de supporter. Je parle d'injustice parce que des fois, il n'y a pas besoin d'aller loin. Quand on cherche à appliquer la justice du royaume de Dieu, ça passe aussi par supporter des injustices à notre égard. Je ne développe pas trop pour qu'on garde du temps. Nous sommes un corps et il est dit, c'est encore Paul qui l'écrit, que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ce verset, tout le monde le connaît. C'est vrai qu'il est très adapté à ce contexte-là. Mais on est vraiment un corps. Et l'Église en France n'est pas persécutée physiquement, mais le corps de Christ, l'Église avec un grand E, l'est partout par le monde. Portes ouvertes, chaque année, met à jour une carte avec des indices de persécution sur des critères qui sont retenus en fonction des discriminations, que ce soit au travail, dans les relations sociales, que ce soit des persécutions physiques, etc., etc. Et chaque année, ils établissent cette carte, et notamment maintenant, ils la portent même au niveau de l'ONU pour sensibiliser sur la persécution dans le monde. Alors, Portes Ouvertes, juste en deux mots, je fais une petite parenthèse, c'est un ministère qui œuvre pour encourager les chrétiens persécutés, pour aussi, comme des agents secrets, apporter de la littérature chrétienne, des bibles, etc., dans des pays où l'évangile ne peut pas entrer officiellement et librement, et aussi pour défendre la cause de frères et sœurs persécutés devant, devant les autorités. Voilà. Et cette année, il y a un pays, l'Afghanistan, ici, qui est passé en numéro 1 mondial, où les talibans ont repris le pouvoir, et on le verra dans la vidéo, la situation redevient très très critique à l'égard des chrétiens. Il y a d'autres pays pour lesquels on priera, Andrew, c'était l'Iran, et aussi l'Algérie, parce qu'il y a Hamid, que l'on connaît, qui on prie régulièrement, et ce sera bien aussi d'inclure dans ce temps de prière. Alors, je ne t'ai pas montré la vidéo, je vais la lancer. Je vais appuyer sur le bouton. Ah, voilà. Donc comme dit sur cette partie témoignage, je passe le relais et je vous invite à ouvrir grand vos cœurs et vos oreilles. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent plus rien. Craignez celui qui a le pouvoir de jeter l'âme dans la géhenne, etc. C'est remarquable de voir la persévérance que ces frères et sœurs ont et cet écho unanime de plus que la motivation, l'élan que ça leur donne pour annoncer Christ avec encore plus d'assurance. On va prendre un temps de prière ensemble et juste avant de passer la main à Andrew, je voulais relire ce verset dans Acte 4, après que Pierre et Jean, je crois, aient été emprisonnés et miraculeusement délivrés, ils vont prier ensemble et dire « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » On voit que dans ces pays, il y a aussi une propagation de l'évangile extraordinaire. Il y a des dizaines de milliers de conversions. Ce sont des pays où vraiment l'évangile gagne du terrain. Nos frères et sœurs le payent au prix fort, mais l'évangile est annoncé avec assurance. Et je crois qu'il nous faut aussi prier dans cette dimension-là pour que l'évangile soit annoncé. Et prions aussi, j'ai envie de dire, pour nous, que ces semences que eux sèment, que aussi on reçoive, qu'on ne soit pas insensible à ça, mais qu'on avance aussi sur ces pas-là. Merci Joël, tout à l'heure quand on était en petit groupe au moment de la Sainte-Cène, en priant, rappeler aussi de prier pour leurs persécuteurs, en nous rappelant que Paul a été un des premiers grands persécuteurs de l'Église et un de ses apôtres, même s'il dit qu'il est le moindre des apôtres, ce qu'il nous a laissé est remarquable. Il a été forgé dans cette foi, dans ces épreuves. Il est devenu de persécuteur un des plus grands, de ceux qui vont le plus soutenir notre foi. Il va lui-même passer par des épreuves dingues et annoncer la parole à des milliers et des milliers de personnes.
Voilà. Merci beaucoup, Saint.